Actu SF, les podcasts.
Eh ben bonjour à tous, merci d'être venus. J'espère que vous n'attendez pas le bus, sinon je vais être très déçu. Je m'appelle Xavier Fournier, je m'intéresse aux comics en particulier depuis un peu plus de 25 ans, et je m'intéresse aussi un petit peu à la science-fiction pendant mon temps libre, ou le contraire peut-être, je ne sais plus. Et on va discuter ensemble pendant une heure de gens qui ont fait le crossover, on pourrait dire, de gens qui, d'auteurs de science-fiction, romanciers de science-fiction, voire agents parfois littéraires de science-fiction, ont basculé et se sont mis à écrire des récits de comics ou éventuellement à l'intérieur des comics, des récits de super-héros. Alors je sais que pour certains, parfois la barrière peut sembler très visuelle et très différente, c'est-à-dire que des gens qui portent des slips au-dessus de leur collant sont pas forcément aussi inventifs que Isaac Asimov ou des trucs comme ça, et on va voir que finalement, je vous spoil un peu, mais les barrières sont beaucoup plus poreuses qu'on pourrait le croire. J'ai pris quelques exemples. On ne peut pas être exhaustif là-dessus, tellement il y a de gens qui sont passés d'un côté et de l'autre. Mais à travers ces quelques exemples, et à travers les personnages qui ont été impactés par ces auteurs-là, je crois que vous pourrez constater que l'influence des auteurs de science-fiction sur les comics et sur les super-héros, elle est manifeste, et que d'une certaine manière, beaucoup de récits de super-héros sont des récits de science-fiction. Alors bien sûr, le super-héros est un personnage, un genre qu'on peut intégrer dans la science-fiction, mais beaucoup d'aventures de super-héros sont en fait des romans de science-fiction à peine retravaillés, des éléments de décor, d'aventures de personnages bien connus. En fait, quand on enlève le vernis, quand on enlève la cape et les rayons qui sortent des yeux, ce sont des romans très identifiés, très précis, qui ont été parfois empruntés sous le nez de leurs auteurs, parfois avec le concours actif de l'auteur. Donc si on peut enchaîner avec la vue suivante. Et donc d'abord, deux éléments fondateurs qui ne sont pas forcément connus du grand public. Il faut savoir qu'en 1933, Schlegel et Shuster créent le prototype de Superman dans un fanzine qu'ils appellent tout bêtement Science Fiction. Déjà, c'est tout un programme. Cette première version de Superman intègre d'abord une histoire de savant fou qui crée une machine qui distribue des super-pouvoirs et qui l'utilise sur un vagabond qui, grâce à ses super-pouvoirs, se dit qu'il va conquérir les États-Unis et donc la Terre, puisque la Terre et les États-Unis, c'est la même chose, hein, souvent dans les récits écrits là-bas. Et il se dit que pour ne pas avoir de rival, il va quand même, parce qu'il est malin, il va détruire la machine pour empêcher qu'on crée un autre Superman pour le contrer. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas si malin que ça, et la machine, il fallait recharger les pouvoirs toutes les 24 heures, et donc il a détruit le seul moyen de regagner des pouvoirs. Ça, c'est le premier prototype de Superman, et par la suite, les auteurs, n'arrivant pas à caser ce récit sous forme de BD, parce que dans le fanzine, il commence d'abord comme sous forme de nouvelle illustrée, n'arrivant pas à le caser, ils vont retravailler beaucoup la formule en s'inspirant d'un roman de science-fiction de Philip Willy qui s'appelle Gladiator. Et Gladiator, c'est un petit peu l'ancêtre du Superman version Smallville. Alors, c'est un type qui un jour se réveille des super-pouvoirs dans sa petite ville américaine et qui ne sait pas pourquoi et qui ne sait pas à quoi il est destiné. Et tout le roman, c'est un peu Clark Kent qui découvre ses pouvoirs. Et la seule différence, c'est qu'il ne va pas aller jusqu'à se créer un costume bariolé. Donc on a cette volonté de science-fiction qui est là dès les prototypes et la genèse de Superman. L'autre vue que vous avez à côté, alors bien entendu c'est marqué Marvel en très gros dessus, ça vous a un petit peu indiqué la tendance. Il faut savoir que l'éditeur Marvel Comics a commencé d'abord dans les années 30 comme éditeur de romans, et non pas de bande dessinée, et qu'à partir de 1938, donc il y a 80 ans cette année, un an avant de basculer dans les comics, dans les romans qu'ils publient, ils se disent on va aller vers les romans de science-fiction, on va aller un peu cloner les Weird Tales et compagnie, les Astounding. On va créer ce truc qui s'appelle Marvel Science Stories, avec ironiquement le premier récit qui fait la couverture qui s'appelle Avenger of Space. Alors je vous rassure, ce ne sont pas du tout les Avengers que vous avez pu voir dans les films ou dans les BD, c'est vraiment un homonyme accidentel. Et ce roman, et d'ailleurs les premiers numéros de Marvel Science Story, on profite de la présence de Henry Kuttner. qui est donc un romancier de science-fiction qui après s'est beaucoup fait connaître, mais qui à l'époque vient du fantastique, qui se met un petit peu difficilement à la science-fiction parce que ses agents littéraires lui ont conseillé de le faire. Et donc, comme lui était un petit peu plutôt dans la bande à Lovecraft, toutes les planètes visitées par les Avengers of Space correspondent à des créations de Lovecraft. On peut pratiquement reconnaître à chaque fois la nouvelle dont, en gros, les Avengers of Space patrouillent à travers le système solaire pour savoir qui détruit la Terre. On découvrira à la fin qu'elle n'était pas détruite, ils se sont trompés. Mais et à chaque fois qu'ils atterrissent sur une nouvelle planète, en fait, on découvre, on reconnaît une nouvelle de Lovecraft. Et sous couvert de faire de la science-fiction, Kuttner continue à faire du fantastique. Et puis, se disait, bah, je vends de la science-fiction, faisant de la science-fiction, mais en fait, je continue ce que j'aime. Un an plus tard, l'éditeur de ce pulp, donc Martin Goodman, va sentir que la tendance elle est aussi aux comics et aux comics de super-héros, parce qu'il a le succès de Superman, et il va conserver une partie du titre et lancer Marvel Comics, avec la descendance qu'on connaît après. Il y a une petite période intermédiaire qui est assez rigolote, c'est que les premiers numéros de Marvel Science Stories sont illustrés par des dessinateurs qui après vont basculer dans les comics à plein temps. Donc on retrouve vraiment une iconographie, peut-être pas dans le premier numéro, c'est assez classique, mais assez rapidement, dans une période intermédiaire entre Marvel Science Stories et Marvel Comics, on trouve des nouvelles de science-fiction, mais qui sont illustrées avec des astronautes très carrés, des mâchoires, des pièges mortels de savants fous qu'on va retrouver après dans des épisodes de Captain America, parce que en fait c'est le même dessinateur et que le gars, finalement, pour gagner du temps, va décalquer la machine ou s'inspirer du même gadget. Si on peut enchaîner. Merci. Parmi les auteurs de science-fiction dont on va vous parler aujourd'hui, Ray Cummings, qui est un auteur prolifique, qui n'est pas aussi connu que Philip K. Dick, mais qui, à travers tous les thèmes abordés, s'est beaucoup fait connaître à partir de 1919 par une espèce de recette qui consiste à raconter comment, un petit peu entre John Carter et Gulliver, comment les atomes sont en fait des systèmes solaires miniatures, et que donc, forcément, sous la barrière des atomes, il y a une planète perdue avec une princesse dans un atome d'or, donc qui a forcément la peau dorée et qui a forcément une chevelure blonde, et qu'il s'agit d'aller sauver, donc un Américain va se dévouer. Et il écrit cette première version en 1919 dans The Girl in the Golden Atom. Ça marche bien, donc il va faire des suites, et il va même refaire des reboots, qui sont des réécritures du même roman. Tout ça en l'espace de quelques années. Mais ce Ray Cummings va avoir la particularité, malgré un âge qui est plutôt avancé pour écrire dans les comics, va vite se retrouver à écrire pour un éditeur bien connu. Et, si on peut. Et donc, Ray Cummings va se retrouver à écrire Captain America, parce que, bah, ma foi, ça arrondit les épinards entre deux nouvelles, entre deux romans. Et en particulier, à ce moment-là, sa carrière littéraire se ralentit un petit peu. On va voir que c'est le cas aussi de pas mal de gens dont je vais vous parler plus tard. Mais lui, il note un rafraîchissement, on va dire, de ses relations avec les éditeurs de livres. Et les éditeurs de comics, hein, à ce moment-là, dans les années 40, avec toute une génération de jeunes scénaristes qui sont partis à la guerre, bah, travailler avec un auteur qui est un peu plus vieux, ça, on se dit qu'il va pas être appelé dans le contingent, donc c'est un petit peu de sécurité pour les éditeurs de comics. Marvel utilise Ray Cummings dans plusieurs séries, on n'a pas toujours le détail d'ailleurs de ce qu'il a écrit, parce qu'à cette époque-là, c'est pas forcément les histoires sont pas forcément signées. Mais celle-là, c'est assez facile à reconnaître, puisque Princess of the Atom, c'est le titre global de la série de nouvelles dont on parlait tout à l'heure, et que, bah, à peine arrivé sur Captain America, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Captain America dans la saga Princess of the Atom, qui est le même récit, si ce n'est que le héros est remplacé par Captain America. Donc Captain America se retrouve projeté dans un univers subatomique, où il s'agira de défendre la princesse aux cheveux d'or, qui est, bon, elle est pas tournée pareil, mais vous pouvez voir que limite entre les deux images, on pourrait croire que les deux dessinateurs se sont envoyés l'un à l'autre, parce que l'iconographie est la même. Et le récit, à l'intérieur, reprend pratiquement les mêmes noms propres de personnages. Cette idée d'atome de taille subatomique va se perpétrer dans les comics. Alors non plus, non pas avec Ray Cummings, avec un auteur dont on va parler tout à l'heure qui s'appelle Gardner Fox et un dessinateur qui s'appelle Jim Kane, qui dans les années 60 crée, fin des années 50 d'ailleurs, je crois, crée un personnage qui s'appelle Atome. Atome dont le propre est pouvoir et le pouvoir, super pouvoir, c'est de se réduire. Atome, c'est un petit peu le Ant-Man de DC Comics. Et il ne manque pas de se réduire à des tailles subatomiques, où bien entendu, il va rencontrer des princesses à libérer. Le vrai truc, c'est que les auteurs, étant eux-mêmes fans de science-fiction, vont donner comme nom civil à Atome, non pas Ray Cummings, mais Ray Palmer, qui était un éditeur de science-fiction et de pulp. Donc l'identité secrète de ce personnage elle-même, c'est un hommage au pulp des années 30 et 40. Un double hommage, puisque en fait, dans les faits, si on reconnaît Ray Palmer dans le nom civil, en fait, une bonne partie de l'histoire, elle descend de Ray Cummings. Et on va boucler la boucle quelques années plus tard, parce que dans les années 80, Jill Kane veut un petit peu actualiser le personnage de Atom, et donc le piège, cette fois-ci, définitivement dans un monde subatomique, où, aux surprises, il se retrouve face à un peuple à la peau dorée, et il ne manquera pas de tomber amoureux de la princesse qui va sauver, donc on est à nouveau dans une réécriture de la princesse de l'atome doré. Ce qui veut dire qu'à travers les années, on va retrouver finalement, là en plus c'est une version un petit peu accélérée parce que je pourrais vous séquestrer tout le week-end en vous parlant de tout ce qui animait la science-fiction dans les comics, mais ça va pas vous plaire. Donc on voit bien qu'en gros, une même nouvelle de science-fiction s'est réincarnée au moins une douzaine de fois à travers les décennies, pour donner lieu à des facettes différentes de super-héros ou de récits de science-fiction. Ça, c'est pour ce qui concerne Cummings. Un autre récit moins connu, toujours un peu descendant du même type, ça, c'est une aventure de Hulk. Alors, pour ceux qui connaissent Hulk, il y a le grand amour de Hulk, souvent quand vous voyez ça à la télé, dans les films ou dans les téléfilms, c'est Betty Ross. Mais dans les années 70, on a essayé de renouveler un peu le truc et lui trouver une nouvelle fiancée. Alors qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il trouve cette nouvelle fiancée? Eh bien, imaginez-vous que les Avengers, décidant que Hulk est trop dangereux, ont une aventure avec lui dans laquelle il finit par être réduit à une taille subatomique. Et donc forcément, il fait la connaissance de la princesse Jarella. Alors, comme c'est Hulk, forcément, les extraterrestres microscopiques, cette fois-ci, ils ont la peau verte. C'est plus compatible avec Hulk. Mais elle ne manque pas d'être blonde, puisque ce n'est jamais qu'une nouvelle descendante de la princesse de l'atome doré de Ray Cummings. Là, on change d'auteur. Otto Binder, c'est un type qui, avec son frère, a eu la particularité d'écrire iRobot. Alors vous allez me dire, ben non, c'est Asimov, mais non, avant Asimov, ces deux frangins-là ont créé un iRobot. Alors vous allez me dire, ouais, ben c'est un homonyme. Non, il se trouve que c'est un robot accusé de meurtre et ensuite tout le procès dans la nouvelle. Donc Asimov, pendant longtemps, a dit non, il n'y a aucun rapport, c'est un pur hasard. Et après, au bout de quelques années, a dit oui, finalement, j'ai peut-être lu ce truc-là, il est possible qu'il en soit resté quelque chose. Et puis, je crois que finalement, sur les dernières périodes de sa vie, il disait que c'était un hommage au frère Binder. Otto Binder, non seulement il est auteur de science-fiction et de choses fantastiques, mais il est aussi agent littéraire. Donc, il fait un petit peu partie de cette frange de personnes qui gravitent autour de Lovecraft, de Robert Howard, de plein d'auteurs de la fin des années 30. Et lui aussi, ben voilà, quoi, à un moment, ne serait-ce que le fait d'être agent littéraire, c'est déjà une manière alimentaire de vivre dans ce milieu-là parce que il veut écrire. Mais avec le même ralentissement quelque part des parutions, il va être obligé de se trouver un nouveau débouché dans sa carrière. Et vous aurez compris qu'il passe du côté des comics. Alors il passe d'abord dans un genre très différent de ce qu'il pouvait écrire, puisqu'il reprend l'écriture d'un héros qui s'appelle le Capitaine Marvel. Le Capitaine Marvel n'a rien à voir avec les Marvel Comics. C'est Marvel, mais c'est édité ailleurs. Captain Marvel est une sorte de concurrent de Superman, si ce n'est que lui, il est basé sur la magie. Otto Binder n'est pas le créateur du personnage, mais reprend assez vite l'écriture et devient, au fil des ans, on va dire l'auteur principal du Captain Marvel. D'ailleurs, on peut voir cette scène que j'ai mis là, où dans les années 70, le jeune héros qui, dans la vie de tous les jours, est un enfant quand il prononce pas le mot magique Shazam qu'il transforme en surhomme. Donc le jeune héros en civil croise un monsieur grisonnant et il ne manque pas de reconnaître en lui monsieur Binder qui salue parce que c'est un petit peu l'auteur emblématique du héros. Dans le groupe que vous pouvez voir sur la couverture, donc tout en n'étant pas le créateur de Captain Marvel, Otto Binder est le créateur de la version féminine de Captain Marvel, Marie Marvel, sa sœur oubliée, donc une sorte d'équivalent féminin de Captain Marvel. Et pendant des années, il va écrire cette série-là. Et on va voir que, bien entendu, là, pour le coup, ça l'éloigne un petit peu de la science-fiction, mais on va vite y revenir. Et figurez-vous qu'en bon ancien agent littéraire de Robert Howard, il ne va pas manquer de créer un nouvel ennemi de Captain Marvel. Et ce nouvel ennemi, c'est le roi Kul. Je ne sais jamais si on doit le dire Kul ou Cool. Robert Howard, en dehors de Conan, avait créé un roi d'Atlantis qui s'appelait Kul. Et dont il a écrit quelques nouvelles. Et là, vous pouvez voir le même personnage. Alors, visiblement, le dessinateur n'était pas dans la confidence. Donc, pour lui, le roi Kul, c'est vraiment un troglodyte affreux, machin. Mais scénaristiquement, dans l'épisode où apparaît ce personnage, et après il va devenir un ennemi récurrent de Captain Marvel, on ne manque pas de nous expliquer que le roi Kul est bien entendu le roi d'une très ancienne branche antérieure de l'humanité, et en fait c'est entièrement raccord avec ce qu'écrivait Robert Howard. Si on fait abstraction du côté mal rasé et un peu hirsute, il faut le dire, un peu plus catcheur de la WWE, je ne sais pas quoi, scénaristiquement, c'est la suite de l'histoire. C'est-à-dire que le roi Kul se réveille à l'ère moderne et bien entendu ne reconnaissant pas dans l'humanité moderne son peuple, décide de tout faire pour détruire à la fois l'humanité moderne et peut-être ramener son peuple à la vie. Ce qui fait que du coup ça devient un antagoniste pas très sympathique. Si on peut enchaîner. Otto Binder, lui aussi, fait partie de ces auteurs qui vont écrire du Captain America. Et dans le numéro 17, même si la couverture n'est pas très explicite, Captain America lutte contre un peuple qui vient de sous la Terre. Et avec des vers géants et des hybrides d'hommes, à la fois enfin, 50% hommes, 50% asticots, on va dire. Donc qui vivent dans des cavernes. Et c'est là aussi, à peu de choses près, les mêmes personnages que dans une nouvelle de Robert Howard, donc les Warm of the Earth. En dehors, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de baisser, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. En dehors du nom très identifiable d'une espèce de reine d'opérette qui règne sur ce peuple souterrain, donc la reine Médusa, en dehors de ça qui est rajouté, mais globalement, on est là aussi dans la continuation. C'est-à-dire que Binder, ami de Howard, Howard qui est déjà décédé à l'époque, ne manque pas, en fait, finalement, de continuer l'univers de Robert Howard avec les super-héros contemporains des années 40. C'est-à-dire qu'on a vu Kul ressurgir chez Captain Marvel, et puis on voit Captain America, finalement, lutter contre les descendants du peuple qui a combattu Frank McMahon, pardon. Donc on est vraiment dans une sorte de private joke, parce qu'en plus, Robert Howard n'est pas forcément si célèbre que ça à l'époque. Conan a eu un bon démarrage, mais n'est pas non plus très actualisé. Et en tout cas, pour le jeune public de lecteurs, et je pense aussi pour les éditeurs, les vrais publishers des comics, qui n'étaient pas forcément des gros lecteurs eux-mêmes, ça passe de manière complètement transparente. Les scénaristes entre eux sont dans la confidence. Le public et les gens qui emploient les scénaristes, eux, n'y voient que du feu et ne font pas forcément le rapprochement. Si on peut changer. Otto Binder, c'est aussi un type qui va créer plein de choses assez marquantes dans les récits liés à Superman et ou à son équivalent adolescent, c'est-à-dire Superboy. Donc Otto Binder va pendant des années écrire la série enfin l'univers de Superman et va créer en particulier co-créer la le groupe la Légion des super-héros. ainsi qu'un petit personnage blond qui ressemble un petit peu à une version de Superman en jupe et qu'on va appeler Supergirl. C'est-à-dire que Bender, tout au long de sa carrière, va rester un scénariste à qui on va faire appel quand il s'agira de créer une super-héroïne à partir d'un super-héros existant. Il y a d'autres exemples alors, sur des personnages plus obscurs, je ne vais pas trop non plus vous les lister parce que je vais vous perdre sinon, mais parce qu'elles sont dérivées sur des personnages qui ont eux-mêmes disparu depuis, mais Otto Binder va créer facilement une demi-douzaine, peut-être plus, de super-héroïnes entre les années 50 et 60, qui sont des versions féminines comme ça, et Supergirl, qui aujourd'hui encore anime les écrans de télé et compagnie, c'est sans doute une des plus célèbres. C'est un processus qui avait commencé avec Mary Marvel tout à l'heure. À travers ces... À travers ces récits-là, on reste quand même toujours dans un récit de science-fiction. La Légion des super-héros, ce sont des voyageurs du temps qui vivent 1000 ans dans le futur et qui, à chaque fois, viennent rendre visite à Superboy, ou Superboy va leur rendre visite. Supergirl est bien entendu un moyen de revisiter les origines de Superboy parce qu'elle arrive elle aussi en fusée sur Terre. Et on a beaucoup de choses qui touchent à de la science-fiction. Alors, bon chic, bon genre des années fin des années 50, début des années 60. C'est-à-dire que c'est pas la chose d'un autre monde, c'est pas alien, mais on est un petit peu dans de la science-fiction à la Star Trek, très propre et un petit peu tout le monde avec des pyjamas Mickey, on va dire. Là, je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui connaissent les Captain Future, mais peut-être que parmi vous, il y en a qui ne le connaissent pas. Donc Captain Future, qui est plus connu en France parce qu'il a fait l'objet d'un manga qui, chez nous, s'appelait Captain Flamme. Et donc, en pulp, en 1940, si ma mémoire est bonne, d'ailleurs c'est marqué, ma mémoire n'est pas si mauvaise que ça, Captain Future commence dans l'univers des pulps, et c'est une création collective. C'est une sorte de boulot de commande fait par un éditeur qui s'appelle Mort Wessinger, qui, en discussion avec un scénariste qui s'appelle Edmond Hamilton, crée ce personnage-là, qui va être pendant des années assez populaire en termes de science-fiction. Et là aussi, on est dans une SF un peu genre Planète Interdite, avec des cyborgs, des extraterrestres qui veulent conquérir le système solaire. C'est un modèle qui va être repris dans beaucoup de récits de science-fiction de l'époque, aussi bien en roman, il va y avoir des imitations que dans les comics. Pour la petite histoire, il n'est pas exclu que Captain Future lui-même soit une imitation parce que, alors on ne voit pas forcément sur l'écran, mais le héros a pour meilleur ami un cerveau enfermé dans un globe de verre, le professeur Simon. Et si vous vous souvenez tout à l'heure, la première couverture qu'on a vue de Marvel Comics, on a vu un aventurier de l'espace avec une combinaison qui ressemblait assez à celle de Captain Future, en train de lutter contre un cerveau géant qui était lui-même dans un globe. Il y a beaucoup de choses qui font. Ces deux romans n'ont pas le monopole des cerveaux enfermés dans des supports transparents. La science-fiction en est pleine, mais l'accumulation des ressemblances fait quand même qu'on se dit qu'il y a aussi des choses un peu bizarres qui ont dû se passer par là. Mais en 40, en tout cas, ces deux personnes créent Captain Future, et puis il va se passer des choses. Tout à l'heure, je vous le disais déjà précédemment, l'activité sur les pulps se ralentit un petit peu au fur et à mesure qu'on rentre dans la guerre. En tout cas, il y a moins en moins de place pour certains agents littéraires qui vont donc se trouver un boulot au fur et à mesure que les comics se développent, en particulier les comics de Superman et des personnages associés. Donc beaucoup de gens ont fait la transition. Ils étaient agents littéraires, ils ont la formation idéale pour devenir éditeurs, responsables éditoriaux. Et donc on va les embaucher pour ces postes de supervision. Si on peut enchaîner. Ah, ça bug. C'est un diesel. Ça marche plus? Ah, ça a planté. Non, mais ça a changé trop vite en fait. Voilà, bah, une autre fois. Ah, en fait, oui, celui-là a un bug. D'accord, bon. Alors, vous avez vu, passer très vite, parce qu'il était pressé, il s'agissait d'aller sauver le monde. Mort Wessinger, qui. Non, mais en fait, ouais, d'accord, super. Morven Singer, arrivé chez DC Comics, on lui dit qu'il a besoin, pour remplir une nouvelle revue, de créer plusieurs héros. Donc la petite légende, la petite histoire dit qu'en l'espace d'un après-midi, Morven Singer crée spontanément 3 ou 4 héros pour DC Comics. Les deux plus célèbres sont Green Arrow. C'est-à-dire que globalement, il a regardé Batman, il s'est dit « je vais faire le même avec des flèches ». Mais c'est ça, dans les premières histoires de Batman, c'est vraiment de Green Arrow, on vire le motif de la chauve-souris et on décalque pratiquement des scénarios pour remplacer tous les gadgets de Batman par des gadgets à flèches. Et puis il y a aussi déjà chez Marvel à l'époque un personnage qui s'appelle Namor, le prince des mers, et aux surprises, Vezinger va créer un personnage qui s'appelle Aquaman. Ça sonne mieux Aquaman, mais dont le propre est de veiller sur les océans. Et puis il y a d'autres, là aussi d'autres personnages que je ne vais pas vous lister là parce qu'ils ne sont pas forcément très explicites, mais en l'espace de quelques temps, Morven Singer va alimenter tout le fond de catalogue, c'est-à-dire pas forcément les grandes stars de DC, mais il va peupler le second rang de DC Comics avec des personnages comme ça. Alors, à l'époque, c'est le second rang, mais Aquaman sera bientôt, dans quelques semaines, une vedette de film, et c'est à Morven Singer qu'on le doit. Green Arrow, bah, lui, il est à la télé depuis pratiquement une décennie maintenant. Et ce sont toujours des personnages en usage, et ce sont maintenant des personnages bien connus des auteurs, des fans de comics. Alors, on n'est pas forcément, là, vous allez me dire, à nouveau dans la science-fiction, mais on va y revenir parce que si on peut se centrer sur la dernière vue, je vous enquiquine avec mes demandes. Morven Singer, c'est aussi l'éditeur en chef qui, pendant des années, va superviser tous les titres Superman et va être un artisan de la. Science-fication, je ne sais pas comment le dire, de Superman. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que dans les années 30-40, Superman, c'est une sorte de héros certes noble, certes surpuissant, mais en gros, c'est une brute de cirque qui déchire des tanks à main nue. Et sans avoir grand souvenir d'ailleurs d'où il vient. Le premier épisode de Superman, on nous explique en deux cases qu'il vient de Krypton et que ses parents l'ont foutu sur la première navette en partant pour la Terre parce que c'était ça ou la mort. Et puis après, il est petit, adopté par des Américains pur jus, et lui-même n'a aucun moyen de se souvenir d'où il vient. Le paradoxe étant que jamais dans la BD, il lui vient la question de se demander d'où ça vient. Les lecteurs savent, mais lui ne sait pas. Et changer ça au fur et à mesure, sous l'impulsion de Morven Singer, avec une grande volonté d'accentuer cet héritage de science-fiction. C'est-à-dire que il y a un truc qui va arriver, là aussi inspiré de Batman, c'est que Batman a sa Batcave, Superman n'a pas de Batcave, et donc on va décider que Superman a ce qu'on appelle le Fort Superman, qui deviendra beaucoup plus célèbre sous le nom de la Forteresse de la Solitude. Et la Forteresse de la Solitude, c'est son hangar secret avec une clé géante qu'il est le seul à pouvoir sauver sur Terre, et ce hangar secret est donc peuplé de toutes les inventions qu'il y avait dans Kandor. Dans Krypton, sa planète d'origine, avec Kandor, qui est la dernière ville, mais miniaturisée. Alors, je vous laisse deviner si c'est lié ou pas à Rick Cummings. Là-dessus, il y a discussion. Mais en tout cas, du coup, au lieu d'être simplement un type super fort qui vole dans le ciel, ce qui est déjà pas mal pour se faire remarquer dans les soirées, il va en plus devenir véritablement le dernier ressortissant de sa planète, et donc alimenter avec des inventions véritablement de science-fiction tous les récits. Et vous pouvez voir d'ailleurs que le Superman of the Future, pour ceux qui connaissent un petit peu les séries télé, les anthologies fantastiques, c'est un motif qu'on a pu retrouver aussi à l'identique, c'est-à-dire le type qui rentre dans une boîte pour s'évoluer la cervelle. Alors, bon, à la fin de l'histoire, il redevient normal, hein, tout va bien, il va pas garder ce physique-là. Hein. Mais on a vraiment une volonté de Vezinger, en tant que superviseur des séries, d'aller sur un truc qui nous ramène plutôt vers la quatrième dimension, vers aux frontières du c'est côté frontières du réel ou du possible. Voilà. Et donc, du coup, Superman, à partir des années 50, fin des années 40, années 50, assume vraiment ce rôle de héros de science-fiction qu'il n'assumait pas dans la première décennie de son existence. Si on peut changer. Et donc là, on revient là, c'est normal, entièrement normal, parce qu'il y a deux noms sur cette image, et deux noms parce que, en fait, Edmond Hamilton, lui aussi, va faire la transition et arriver dans les valises de Morven Singer chez DC Comics et devenir un scénariste marquant de l'histoire de Superman et de Batman. Donc, dans la même volonté que celle de Wenzinger, on va décider qu'il y a par exemple une saga de Superman où d'un seul coup, grâce au passage d'une comète, eh ben, il lui est permis de remonter le temps avant la destruction de Krypton. Et il va voyager sur Krypton, découvrir ce qu'était Krypton, et du coup, tous ses souvenirs lui reviennent. Et à partir de cet épisode-là, l'héritage kryptonien de Superman devient une force première dans les histoires. Et cet épisode-là, on le doit donc à Edmond Hamilton, qui va se faire une spécialité d'ailleurs dans les années 50 de réinventer les origines des héros. C'est-à-dire qu'ils ont débuté fin des années 30, début des années 40 pour certains autres. Et Hamilton va souvent être celui à qui on va faire appel pour réinventer des espèces de préquels, ou à chaque fois dire: Ah ben, vous pensiez que c'était ça l'origine, mais en fait, il y a un gros détail avant. Donc, Edmond Hamilton, c'est celui aussi à qui on va faire appel pour raconter la première aventure entre Superman et Batman. Alors, il y en avait eu d'autres avant, bien sûr, mais là, dans ce coup, on vous raconte comment ils se sont rencontrés pour de vrai la première fois. C'est Hamilton qu'on fait appel. Il y a un épisode de Batman, par exemple, qui révèle pourquoi les parents de Bruce Wayne ont été tués. Toujours écrit par Hamilton. Et pourquoi ont-ils été tués? Parce qu'avant la mort, le père de Bruce Wayne était lui-même une sorte de Batman. Le temps d'une soirée. Il a utilisé le costume et c'est pour ça. Alors, ce sont autant d'explications qui n'ont pas toujours été conservées à la longue dans les comics ou dans les films que vous avez pu voir ces dernières années. Mais dans les années 50, le type qui réinvente toutes les origines des héros de DC Comics, et DC Comics c'est quand même une boîte marquante à l'époque, ça l'est toujours d'ailleurs, c'est Edmond Hamilton. Et là aussi, on parle d'une période où il n'était pas commun de signer les aventures des héros, donc la signature du dessinateur ou du scénariste, vous pouvez la chercher longtemps sur l'image, vous n'allez pas la trouver. Mais par contre, Edmond Hamilton a écrit pendant des années les aventures de Superman de manière totalement anonyme. C'est-à-dire que, bien entendu, il reste des traces, sinon je ne pourrais pas vous le raconter aujourd'hui, mais les lecteurs ne faisaient pas le rapprochement entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a aucun, même des lecteurs des romans de Edmond Hamilton ne pouvaient pas savoir qu'ils lisaient en lisant Superman, ils lisaient là aussi des histoires d'Edmond Hamilton, si on peut changer. Alors là, un exemple marquant, Edmond Hamilton dans Action Comics 300, c'est l'artisan d'un talon d'Achille bien connu de Superman. C'est-à-dire, dans l'univers de Superman, s'il est surpuissant sur Terre, c'est qu'il est baigné par les rayons solaires, les rayons d'un soleil jaune. Et tout le jeu de Edmond Hamilton va être de développer l'idée que Superman perd ses pouvoirs s'il est sous une étoile d'un autre régime. Une étoile naine, blanche, bleue, tout ça crée des perturbations dans ses pouvoirs, et le pire, c'est l'étoile rouge. Alors, pourquoi? Parce que Krypton tournait autour d'une étoile rouge et donc ça suffit à lui faire perdre ses pouvoirs. Tout ça vient de manière assez intéressante d'un récit de City at World End où là c'est une ville contemporaine qui, à cause d'une sorte de, je crois, catastrophe nucléaire, je ne sais plus très bien, est projetée à travers l'espace-temps, atterrit dans une terre déserte dévastée et devient la dernière cité de la Terre, donc ils sont obligés d'ailleurs de se protéger sous un dôme. Et donc, comme la Terre est devenue vieille, son étoile aussi est devenue vieille, et donc ils vivent sous un soleil rouge. Et dans Action Comics 300, Superman est catapulté dans le futur, se retrouve dans une Terre dévastée, et forcément là aussi la Terre a vieilli, donc le soleil a vieilli et c'est devenu un soleil rouge, et donc Superman doit passer l'épisode à savoir comment retourner dans son époque puisque ses pouvoirs ne fonctionnent plus malgré les radiations du soleil rouge. Et comme tout à l'heure je vous l'ai montré avec certains récits de Otto Binder qui sont en fait des suites officieuses de romans de Robert Howard, bah là Superman, l'esthétique est assez explicite, je pense. Superman se retrouve dans le monde du roman qu'Edmond Hamilton a publié quelques années auparavant. Et donc la faiblesse sur le soleil rouge vient d'un roman de science-fiction. Le poids d'Edmond Hamilton est tel que DC Comics, par reconnaissance, va finir par créer des personnages à son nom. Donc Superman compte parmi ses ennemis un type qui s'appelle le Colonel Futur. Pour ceux qui ont suivi, et vous êtes la plupart, j'espère, on rappellera quand même qu'il est l'inventeur du Captain Futur. Donc c'est une manière un petit peu de faire un clin d'œil. Donc le Colonel Futur s'appelle Edmond Hamilton. Et dans les aventures de Superman, surtout à partir des années 80, apparaît un autre personnage, là, cette fois-ci, qui est plutôt un allié, mais qui parfois pète un câble, comme on pourrait dire. Donc c'est une sorte de savant fou. C'est un peu l'équivalent pour le professeur Hamilton et pour Superman, un petit peu l'équivalent de ce qui est Q pour James Bond. C'est-à-dire que c'est un savant fou qui est capable de construire tous les gadgets. Et donc, alors lui, il s'appelle, pour ne pas confondre avec le colonel futur, celui-là s'appelle le professeur Emil Hamilton. Mais on a bien compris que c'est une référence à l'auteur de science-fiction qui a eu une importance assez capitale pour l'évolution de Superman. Si on peut avancer. Alors, Edmond Hamilton, il a aussi eu des effets involontaires. Il a écrit en 1940, je crois. Une nouvelle dont le titre donne en gros celui qui avait des ailes. Celui qui avait des ailes, c'est un type qui est atteint de mutation et qui à la naissance naît avec une paire d'ailes, hein, donc ressemble à un ange et se demande un peu comment faire. Donc là, vous avez le roman d'origine et vous avez l'adaptation dessinée par Jill Ken qui l'a vraiment adapté de manière officielle vers 73, je crois. Vous avez ce héros ailé qui est une sorte de Icare passé à la moulinette de la science-fiction. Et si on peut passer à la vue suivante. En fait, ce personnage-là, transposé, si vous avez lu ne serait-ce qu'une fois des aventures des X-Men, c'est évident que Jack Kirby en particulier, qui est un gros consommateur de romans de science-fiction, alors les X-Men ont été co-créés par Stan Lee et Jack Kirby. On sait que Stan Lee n'était pas forcément très porté sur la science-fiction, mais en particulier son dessinateur et co-scénariste Jack Kirby, lui, est un lecteur vraiment boulimique de pulp. Et on voit le rapport, c'est-à-dire que le personnage est identique. Et il y a même d'autres choses assez intéressantes. C'est-à-dire qu'en gros, les X-Men sont une combinaison de choses qui ont été écrites par Edmond Hamilton. Alors, l'appropriation, elle est officieuse, hein. C'est-à-dire qu'à aucun moment Marvel a fait voilà la BD inspirée de Hamilton. C'est vraiment, on s'est servi dans ses romans. Mais Jack Kirby, en particulier, a mélangé des choses empruntées à Hamilton avec des choses empruntées à un autre auteur de science-fiction qui s'appelle Theodore Sturgeon. Et quand on mélange son roman Les plus qu'humains et Cristal qui change, qui est un autre roman de Sturgeon, on mélange ça avec le roman que je viens de vous citer de pardon, pas de Sturgeon, mais de Hamilton, et vous avez en gros la structure, à un ou deux personnages près, vous avez la structure, le prototype des X-Men. Et donc ça vient directement de romans très précis. Alors, un autre personnage, un autre auteur marquant, et quand je dis que celui-là est marquant, vous allez voir que c'est pas à moitié. Gardner Fox était un avocat qui vivotait un petit peu, qui, pour arrondir les fins de mois, a commencé à écrire. Commencé à écrire non seulement des romans, des nouvelles, des choses comme ça, et puis à écrire dans les comics. Je crois qu'il commence dès 1939. Et donc là, vous pouvez voir que, ma foi, il est dans un registre finalement assez proche d'un Robert Howard en ce qui concerne l'heroic fantasy, mais c'est aussi un type qui est très intéressé par la science-fiction et qui copinait beaucoup avec des auteurs comme Lovecraft. Et qui, par la force des choses, dès 1939, se retrouve à écrire des comics. Donc si on peut enchaîner. Et là, on va voir que si ce type-là avait décidé de ne pas aller dans les comics et était devenu garagiste automobile, il y aurait toute une partie des comics qui aurait disparu. Gardner Fox, c'est le. Alors, d'ailleurs, on peut noter que c'est un des rares qui est crédité déjà à la base, qui n'était pas courant à l'époque, mais Gardner Fox, c'est le type qui co-crée la première version de Flash. Donc déjà, s'il vient pas à la fête, lui, vous pouvez oublier ça de vos répertoires de bande dessinée, le super rapide et compagnie, ça vient de Gardner Fox. Il est aussi le co-créateur du personnage ailé Hawkman. Si on peut enchaîner. Il est aussi le créateur du justicier urbain, le Sandman. Alors, Sandman qui s'est réincarné en différentes versions au fil des années, mais des décennies, mais Gardner Fox, c'est le scénariste originel. C'est aussi le premier scénariste en dehors des créateurs originaux, a écrit les aventures de Batman. Et vous allez me dire, bah oui, mais c'est un peu le Poulidor, pourquoi me préciser, vous parler du deuxième? Parce que avant qu'il intervienne sur les aventures de Batman, Batman n'a pas de ceinture à gadgets. Et il n'a pas de batarang. Et il n'a pas de véhicule volant parce que c'est dans un récit de Gardner Fox que pour la première fois, Batman a eu l'idée d'utiliser ce qu'il appelle le Bat-Giro, qui va devenir plus tard le Bat-Plane. Et donc, parce que Fox est passé derrière et a dit, bah ouais, votre personnage urbain, il est sympa, mais il n'a pas de gadget et il a pas d'équipement, si on pouvait changer ça. Gardner Fox est aussi le premier auteur de Batman à lui faire affronter un super vilain, qui est largement oublié aujourd'hui, qui s'appelle le Docteur Death. Mais on voit bien que c'est pareil, quoi. S'il passe pas derrière pour corriger le tir, Superman reste un type, ma foi, très sympa, très serviable, un justicier, dans une voiture banalisée rouge, qui a même pas de garage. Et ça n'a pas le même peps. Donc le Batman avec de l'emphase, avec des gadgets et avec finalement tout un côté plus grand que nature, c'est le Batman de Gardner Fox. Autre personnage qu'on voit ici, Dr. Fate, qui est largement oublié aussi aujourd'hui, qui est un sorcier, qui est on pourrait dire que c'est le sorcier principal de l'univers de DC Comics. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais là, il est en train de créer du super-héros, on s'éloigne un peu de la science-fiction. Oui, mais comme ses camarades qu'on vient d'évoquer, Fox va commencer à se dire, mais moi, je ferais bien des allusions à mes potes. Donc, aussi bien des personnages comme Hawkman que le sorcier Dr. Fate vont se retrouver à aller affronter sous les mers des cités englouties, où des générations consanguines ont créé des êtres poissons, des choses comme ça. Pour ceux qui connaissent Lovecraft, en gros, on est à fond dedans, et surtout que dans les deux cas, la saga consiste à savoir s'il faut réveiller un dieu englouti. Donc on est fondamentalement, on a pris une nouvelle de Lovecraft et on a juste collé un super-héros en slip dessus. Alors je suis sûr que c'est très voyant, le slip, ça attire un peu le regard, mais quand on regarde derrière, on est en plein dans l'univers de Lovecraft. Si on peut passer à la suivante. Étant le créateur de tant de super-héros, Gardner Fox, dès 1940, c'est un choix logique pour qu'on lui demande de créer la première équipe de super-héros qui s'appelle la Justice Society. Puisqu'en gros, la moitié des personnages concernés sont des créations de Gardner Fox. Donc ça va plus vite en lui demandant d'écrire le groupe. Dans les années 60, il sera toujours à la manœuvre chez DC Comics. Et on va lui demander de rénover la Justice Society parce qu'on trouve que c'est un peu vieillot et qu'une partie des personnages d'ailleurs ont été réinventés entre-temps. Et donc il va co-créer la Justice League of America. Donc si ce type-là s'était cassé le bras ou avait chopé une maladie le jour où il a été passé son entretien d'embauche chez DC Comics, c'est peu de vous dire que l'univers DC Comics serait très dévêtu. On peut voir que de toute manière, le souci Lovecraftien. On peut le voir à la couverture de Justice League. Le souci Lovecraftien s'est jamais éloigné très loin de Gardner Fox. Et sur la fin de sa carrière, il a quitté DC Comics, où il a été viré de DC Comics pour des questions de salaire, parce qu'il demandait un peu plus de royauté, parce qu'il trouvait qu'il avait créé un certain nombre de personnages. Et l'éditeur trouvait que c'était plus sympa de ne pas le payer. Donc il a traversé la rue, il est parti chez Marvel où il a écrit des scénarios, quelques scénarios de Doctor Strange. Et aux surprises, l'histoire de Doctor Strange qu'il a écrit consiste à visiter un port maritime où visiblement les habitants ont couché ensemble sur des générations, sont des créatures poissons. Et on est à nouveau dans du Lovecraft parce que c'est un motif qui a rarement, comment dire, qui s'est rarement éloigné beaucoup de Fox, ou c'est Fox qui s'en est rarement éloigné. On trouve, je n'allais pas vous le mettre là-dessus parce que c'est pas vraiment un auteur science-fiction, mais il faut savoir que Stan Lee, dans les années 50, a lui aussi écrit des trucs inspirés de Lovecraft. Et que le motif de la ville poisson, tout ça, c'est des choses qu'on retrouve dans les épisodes d'horreur écrits par Stan Lee. Donc Fox fait aussi des choses en dehors de DC et de Marvel, et dans les années 50, il lance un personnage qui s'appelle Crom le Barbare. Je vois qu'il y a des gens à qui ça dit des choses. Crom, normalement, c'est l'expression préférée de Conan le Barbare, parce que c'est censé être sa divinité de tutelle. Et bon, là, le graphisme date des années 50, donc forcément, Ça a vieilli, ça a pris un peu dans la figure, mais je pense que le peu que vous pouvez voir des images vous évoque plein d'iconographies. C'est-à-dire que Crom le barbare en train de lutter contre un serpent géant, même si vous n'avez jamais lu un roman de Conan, mais que vous n'avez vu, mettons, que le film, ça doit vous parler un petit peu. Et pour ceux qui auraient lu des nouvelles de Conan, Conan en train de lutter contre un dieu araignée, enfin, Crom en train de lutter contre un dieu araignée, c'est eux aussi à fond dedans. C'est-à-dire que Crom, ce n'est jamais qu'un comic book officieux de Conan le Barbare. Et c'est considéré d'ailleurs par tous les connaisseurs du sujet comme étant le premier comic book vraiment howardien, totalement howardien, qui a été publié dans les 50. Si ce n'est que, bien entendu, ça ne dit pas son nom, parce qu'à ce moment-là, d'ailleurs, les droits de Conan étaient un petit peu sujets à caution. Donc, on est à fond dans cette notion de je prends un roman. À plus forte raison, parce que dans les années 50, c'est pas forcément c'est pas forcément beaucoup dans les mémoires. Je prends un roman et je l'adapte pour en faire une création originale, au moins par le nom. Si on peut changer. Et voilà. Et donc, voilà où ça nous amène. Donc, les auteurs de science-fiction, il y a, comment dire, le trajet existe dans l'autre sens. Je ne vous ai pas mis les couvertures parce que ce n'est pas des choses qui ont été rééditées récemment et je vous avouerai que je n'ai pas les visuels. Mais il y a eu, à partir des années 90, un exercice qui consistait à être, quand on était auteur de comics à succès, de devenir, pour se faire reconnaître, auteur de science-fiction. Donc Chris Claremont, qui a été scénariste des X-Men pendant 17 ans, qui a été un peu le type derrière toutes les grandes sagas des X-Men, par exemple dans les années 90, va devenir un auteur de science-fiction d'une trilogie un peu de space-opéra qui s'appelle First Flight, si ma mémoire est bonne. John Byrne, qui est dessinateur des X-Men à la même époque, lui va écrire des romans d'horreur lourdement inspirés de Stephen King. Quand je dis lourdement, c'est qu'on pourrait rayer le nom et faire croire à des gens que c'est du Stephen King, ils croiraient à ça. Et que donc l'interdépendance continue largement au point où on peut trouver encore dans des choses, dans nombreux récits, je ne peux pas tout lister, mais on peut par exemple, je vous ai parlé de Theodore Sturgeon, il faut savoir que chez Marvel, à une époque, est-ce qu'il y en a qui parmi vous qui connaissent Killdozer? Donc, Killdozer, c'est une nouvelle de Sturgeon, où c'est une sorte d'entité extraterrestre qui possède un bulldozer gigantesque et qui essaie de prendre le pouvoir sur Terre à travers ça. Mais on trouve chez Marvel Comics un récit scénarisé par Stan Lee et dessiné par Jack Kirby. Alors, Stan Lee était souvent officiellement le scénariste, mais là, je vous l'ai dit tout à l'heure, on sait que Kirby était le gros lecteur de SF. Donc c'est sans doute plutôt lui qui a eu cette idée. Et donc on trouve un récit qui s'appelle Trull, comme une truelle un peu. Et donc c'est, vous n'allez pas le croire, c'est une sorte de grand bulldozer qui est possédé par une entité extraterrestre qui a été véhiculée par Netlag et qui essaie de contrôler le monde à travers ça. Donc on trouve plein de choses. D'ailleurs, petit à petit, ces personnages-là vont être assimilés. Il faut savoir que un personnage comme Groot dans Les Gardiens de la Galaxie vient de récits un peu de monstres comme ça, similaires, où on a pris des tropismes qu'on trouvait dans les peuples, qu'on a adaptés dans des récits d'horreur de Marvel et qu'on a transformé petit à petit en faisant parfois des super-vilains, parfois des alliés des fantastiques. Et je crois que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire là-dessus. Il y en a bien entendu d'autres auteurs de science-fiction, je ne peux pas être exhaustif là-dessus parce que je vous le disais tout à l'heure, sinon on va y passer le week-end. Si vous avez des questions, moi je suis tout à fait ouvert à la discussion, il n'y a pas de souci. Si je suis passé un petit peu rapidement sur un sujet ou si j'ai fait une référence qui vous a laissé perplexe, allez-y, c'est maintenant. Oui?
L'auteur de Flash,
Garner Fox? Ah non, 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 non. Alors par contre, c'est clair que y a une. Moi, j'en ai pas tellement parlé parce que je suis plutôt resté à la science-fiction littéraire, mais c'est clair qu'il y a tout un volet d'inspiration de Flash Gordon. Et plus particulièrement des céréales, des premières versions à l'écran de Flash Gordon. Je crois que c'est dans le deuxième où il est sur Mars, et Flash Gordon a un costume balayé d'un large éclair. Et quand vous voyez le costume du Flash de DC Comics, en particulier le costume des origines, c'est le même éclair décalqué. Le costume est basé sur le costume de Flash au cinéma, de Flash Gordon au cinéma. Donc il y a
une grande différence en sens que Flash Gordon, genre, son mythe est fondé par un maître oriental.
Oui, là je parlais vraiment visuellement, mais sur le scénario, c'est complètement. Pardon? Ouais. Non, là le personnage en lui-même, c'est une explication. Ouais. Le Flash comics, c'est un type super rapide qui doit ses pouvoirs dans la première version au fait qu'il est au fait qu'il est qu'il a ses pouvoirs qu'il est comment dire qu'il est assistant dans le laboratoire et qu'il est aspergé de d'eau irradiée ou je sais plus d'un truc comme ça qui fait que quand il se réveille il découvre qu'il est super rapide. Mais scénaristiquement c'est vraiment à l'opposé du Flash Gordon, qu'on parle du Flash Gordon cinéma ou Flash Gordon enfin, d'origine, le strip, quoi. C'est clair que c'est vraiment un rapprochement visuel à faire, là, pour le coup. Monsieur ?
Oui, je voulais poser la question, est-ce que cette tendance se continue aujourd'hui ? Parce que moi, je connais deux exemples. Il y a Neni Okorafor, qui a fait la série Vinti, qui est publiée chez FSF, qui a fait, entre autres, un Black Panther, un arc de Black Panther. Il y a également Geneviève Valentine, qui n'est pas traduite en français, mais qui a fait Catwoman, une série Catwoman.
Alors, ce que vous dites arrive maintenant, mais par contre, on n'est plus dans cette espèce de cousinage. C'est-à-dire que avant, les gens, d'abord parce que souvent les comics n'étaient pas signés, donc les gens, les auteurs de science-fiction faisaient des comics pour des raisons alimentaires, pas pour des versions de reconnaissance, et du coup pouvaient se permettre de faire des rapprochements avec leurs œuvres parce que c'était pas vraiment connu, les gens faisaient pas le rapprochement. C'était vraiment un truc une sorte de clin d'œil entre initiés. Aujourd'hui, depuis à peu près une quinzaine d'années, en particulier à un moment où Marvel Comics a failli mettre la clé sous la porte, ils ont essayé par tous les moyens d'attirer des auteurs célèbres. Pourquoi ? Pour le dire tout bêtement, parce que quand vous avez des noms connus sur les plateformes de vente aux États-Unis, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc, d'un côté, Marvel a commencé à adapter Dark Tower en comics, parce que Stephen King et compagnie. Et puis, effectivement, il y a eu un certain nombre d'auteurs romanciers de science-fiction ou fantastique qui sont devenus des scénaristes de comics. Mais il ne s'agit plus, cette fois-ci, de le faire en sous-cape. Au contraire, il s'agit bien d'avoir le nom au générique, enfin, sur la couverture du truc, parce que c'est même pas la couverture qu'on vise, c'est qu'on se dit que, pour parler franchement, je sais pas, s'ils arrivaient à faire un Hulk scénarisé par Stephen King demain, ça partirait comme des petits pains sur Amazon. C'est cette idée-là qui est mise en avant. Donc effectivement, il y a beaucoup de romanciers. En ce moment, Black Panther est écrit par un romancier, alors pour le coup, qui est plutôt romancier documentaire et journaliste, qui s'appelle Ta-Nehisi Coates. Et l'idée, effectivement, c'est de jouer sur la notoriété de ces auteurs-là, pour que les versions reliées des comic books, une fois mises sur le marché-là, partent comme des petits pains, parce que les complétistes de ces auteurs de romans voudront avoir la totale. Donc on est vraiment dans un truc différent, à plus forte raison parce que maintenant les super-héros ont un poids économique, et que donc l'éditeur ne va pas s'autoriser, comme Mort Wessinger, à lui dire bah tiens, voilà tel roman, j'aimerais bien que tu me le refasses en aventure de Superman. Au contraire, aujourd'hui, il faut présenter les super-héros comme des aventures originales, dont on peut commercialiser les exploits en film, en jouet, en dessin animé. Et si vous commencez à dire non, mais en fin de compte, tout ce passage-là, c'est tiré d'un roman de Robert Howard, vous avez à ce moment-là les ayants droit de Robert Howard qui arrivent et qui disent comment on fait pour la caisse. Donc ça peut plus tellement se faire, cet échange un petit peu finalement un petit peu bon enfant et un petit peu finalement je prends tes concepts et je te dis rien. Ça n'existe plus dans le monde d'aujourd'hui. On est vraiment dans l'exercice inverse où il s'agit au contraire de dire voilà, tel auteur participe à notre univers et voilà.
Oui. En vous écoutant, vous avez beaucoup parlé des.
Je suis désolé, je ferai moins, je vous jure.
Personnages chez Marvel ou chez DC. Ouais. Et en fait, je pensais aux BD Disney. Ouais. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'épisodes, quels que soient les auteurs, qui sont soit très SF, soit carrément inspirés de romans SF. c'est Karl Barks et Don Rosa qui
je me suis j'ai essayé de pas parler des parodies parce que j'ai trouvé que c'est un exercice à part. Vraiment, la parodie, c'est pour moi, c'est un truc déclaré, c'est encore autre chose.
Ma question, c'est tout l'inverse. Est-ce qu'il y a eu des auteurs de SF, parmi ceux que tu sais, par exemple, qui auraient vraiment écrit des comics de Disney?
Pas à ma connaissance. Pas, en tout cas, pas dans ceux que j'ai cités, parce que, en fait, pour parler franchement, Gardner Fox a finalement été très absorbé par DC Comics, à côté de sa carrière d'auteur à côté. Hamilton, c'est un peu pareil. Encore qu'Hamilton, je ne serais pas sûr qu'il ait jamais rien fait pour Disney, mais je ne crois pas. Et les autres, non. Par contre, sur la totalité de ce qui a été publié par Disney dans les années 40-50, c'est pareil. Il n'y a pas forcément les noms. Et faudra pas me faire un procès dans quelques années si on découvre que je ne sais qui a écrit une aventure de Mickey ou voilà. Mais c'est un exercice qui est très particulier. Faut savoir que, par exemple, alors là on sort de la science-fiction, mais une romancière comme Patricia Highsmith a écrit pour Marvel pendant 10 ans, à raison d'à peu près 4 scénarios par semaine. Mais comme à l'époque ça se faisait pas déjà d'identifier les auteurs, mais encore moins si c'était une fille, parce qu'on avait peur que les jeunes garçons veulent la même logique qui est je ne joue pas avec les filles dans la cour de récré. On avait peur que les jeunes lecteurs se désolidarisent d'un comics qui aurait été écrit par une autrice. Donc on a vaguement la trace de deux scénarios qu'elle a écrits, alors que je vous l'ai dit, pendant 10 ans, elle a écrit à peu près à raison de 4 scénarios par an, par semaine, pour Marvel. Donc la quantité de scénarios qui lui sont dus, mais dont on ne sait pas lesquels ce sont, ça vous donne une idée. Et c'est la même chose pour d'autres romanciers. On a qui ? On a vraiment plein de choses comme ça, qui sont des auteurs de polar, par exemple, qui ont souvent contribué à des aventures de comics, mais dont il est très compliqué. On retrouve leurs traces dans des fiches de paye, dans des documents. On sait qu'ils ont fait des choses, on ne sait pas quoi. Oui, tout à l'heure, j'en ai pas parlé parce que finalement, je vous ai dit tout à l'heure, on ne pouvait pas se disperser sur 10, mais l'épisode de Hulk que vous avez vu, qui donc est une réinvention du Hulk, de la princesse de l'atome de Rick Cummings, cet épisode-là est coécrit par Roy Thomas, qui est un scénariste traditionnel de Marvel, mais il est coécrit aussi par Harlan Ellison, qui est crédité à la couverture d'ailleurs, ce qui est assez rare à cette époque-là. Donc le Harlan Ellison, et je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait, pour le coup, a contribué à réadapter les concepts de Rick Cummings, réinjectés chez Marvel. L'ironie du truc, c'est que, autant je pense qu'à l'époque, il savait que Cummings avait écrit pour Marvel, autant je suis pas sûr que les gens qui écrivaient dans les années 70 cette réinjection des idées de Cummings dans Marvel avaient conscience que ça avait déjà été fait dans des Captain America des années 40. J'ai pas compris la question. Oui, 2008 ou 2009, effectivement, je crois. Oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, ils vivent plutôt sur le fond d'histoire, et donc du coup, ils sont plutôt dans l'idée d'adapter les histoires telles qu'elles ont été créées pendant des décennies à l'écran. Il n'y a pas eu trop d'interférences de Marvel, de Disney, qui aurait voulu, par exemple, ne serait-ce que faire des crossovers entre Disney et entre Mickey et les Avengers. Bon, je suis sûr qu'on y aura droit un jour, mais pour l'instant, ils n'ont pas trop touché à cet exercice-là, en tout cas. Est-ce que je peux vous relâcher ou est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, bah, de toute façon, vous pouvez me trouver encore quelques instants dédicaces à côté. Et puis, je vous remercie pour votre patience et à bientôt.